Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je vous remercie. On va lire Luc chapitre 16, versets 1 à 15. Alors, un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Et il dit, voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. On va s'arrêter là. Ah non, on peut aller plus loin encore. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles, lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier, ou il aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors, j'ai déjà enseigné sur ce texte, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit à ce sujet, mais il va falloir, ce que j'ai dit là était tout à fait juste, mais ce que je vais vous dire ce soir est une nouvelle lumière qui entre dans le cadre du rétablissement de toute chose, et ça va vous tordre les boyaux de la tête, dans le sens qu'il va falloir réfléchir spirituellement, il va falloir être attentif et bien comprendre ces choses-là. Et on en parlera aussi entre nous, dans la communauté, et si vous avez des questions à poser, vous qui écoutez, ben vous pouvez toujours les poser par écrit, vous avez vu. Il y a un petit cadre en dessous, là, dans révélationbible.fr. Et voilà, je suis toujours à votre écoute et aussi pour recevoir vos requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, il va falloir écouter, parce que ça sera très différent de ce que vous avez toujours entendu. Quand on lit ce texte, il semble étrange que ce soit Jésus qui ait dit ça. Voilà, un économe qui ne se conduit pas bien du tout envers son maître, qui est malhonnête, son patron, si vous voulez, c'est son patron en fait. Et au lieu de se fâcher, tout rouge, eh bien voilà que le patron loue ce monsieur d'une façon qui se conduit d'une façon vraiment peu orthodoxe. Et on dirait que Jésus lui-même approuve l'attitude de cet économe infidèle. Et puis immédiatement après, Jésus fait l'éloge de la fidélité. Alors, ça paraît contradictoire. On ne comprend pas bien. Il dit, hein, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est également dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Vous voyez, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Qu'est-ce que Jésus fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est en train d'encourager à la fois l'infidélité et la fidélité? Et maintenant, de quoi parle-t-il quand il parle de richesse injuste et de richesse véritable? Il n'y a rien qui est compréhensible dans cette histoire si on ne comprend pas d'abord et si on n'admet pas d'abord que dans l'être humain, il y a une double nature. Je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné, je vous le redis ce soir, on a une nature inférieure et on a une nature supérieure. Quand on a affaire à quelqu'un qui manifeste sa nature inférieure, on ne nourrit pas sa nature inférieure en allant dans son sens. On le laisse, c'est tout. Vous vous rappelez de cette prédication que je vous avais faite? Sinon, vous nourrissez sa nature inférieure et puis ça va continuer, puis ça va être un incendie qu'on ne va plus pouvoir arrêter. Donc, il ne faut pas faire ça. On a deux natures, que vous soyez le plus grand saint du monde, vous avez ça en vous. Vous avez quelque chose d'inférieur et vous avez quelque chose de supérieur en vous. Celui qui dit qu'il a atteint la perfection, il se trompe. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur, nous dit la Bible. C'est vrai, oui ou non? Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se tromper. Bien sûr, on peut se tromper. Mais après s'être trompé, il faut se repentir et puis ne plus refaire les choses. Et on va voir tout ça dans cette histoire. Bien. Un être humain possède donc deux natures et pourtant ces deux natures n'en font qu'une. Quand je regarde chacun d'entre vous, je vois une personne. Il y a, comme je vous l'ai enseigné il n'y a pas longtemps, une nature inférieure. Il faut mettre ça dans votre tête et votre cœur, et une nature supérieure. Et ces deux natures s'opposent dans leur manifestation. Pourtant, elles ont la même structure. Écoutez bien ça, les deux ont leur origine en Dieu. Il n'y a rien qui existe sur la terre qui n'a pas été créé par Dieu. Même le diable a été créé par Dieu. Alors vous voyez, ces deux natures ont les mêmes facultés de penser, de sentir, d'agir. L'une sur un plan supérieur et l'autre sur un plan inférieur. Qu'est-ce que vous choisissez de manifester? Nous sommes venus donc dans ce monde. Quand on dit on est venu au monde, ça veut bien dire qu'on était ailleurs avant. On est venu au monde. Et quand nous sommes nés, nous sommes entrés au service de la personnalité que nous sommes. Et ça, c'est la nature inférieure, c'est-à-dire notre corps, ce que tout le monde voit. Avec tout ce que ça comporte d'hérédité, il y en a qui ne sont pas gâtés, hein, qui ont des hérédités catastrophiques, des parents déjà à moitié dingos, ou des gens qui sont, enfin, de toutes sortes de choses, hein, physiques, mentales, spirituelles, vous avez une hérédité, il y a des gens qui ont une hérédité très lourde. Donc on hérite de ça, et quand on vient, donc on a cette nature inférieure, notre corps avec tout ce que ça comporte d'hérédité physique et mentale, et nous avons aussi une nature supérieure, c'est-à-dire notre esprit. Je vous ai enseigné bien plus profondément ces choses dernièrement, je ne vais pas revenir là-dessus, réécoutez si vous en avez besoin. Et un jour ou l'autre, on va mourir. Bon. L'économe infidèle, là, il est juste sur le point de mourir, c'est-à-dire d'être renvoyé. Suivez-moi bien. Alors, sachant qu'il a mal agi, il se dit, qu'est-ce qui va me rester puisque mon patron me renvoie? Travailler la terre, je peux pas. Mendier, j'ai honte, je peux pas faire ça. Il sait qu'il va mourir et parce qu'il n'aura plus son maître, c'est-à-dire il n'aura plus son corps. Vous me suivez? Il n'aura plus son corps avec tout ce que cela comporte d'héritage physique et mental qu'il le maîtrise. C'est quelqu'un qui est maîtrisé par sa nature inférieure et il va mourir alors qu'il n'a fait que travailler tout le temps avec sa nature inférieure. Il se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire? Et il a, non seulement il va perdre son corps, il va perdre son héritage physique et mental, mais il va aussi perdre ce qu'il a emmagasiné en lui malhonnêtement durant toute sa vie, ses mauvaises habitudes et toutes ces choses-là. Il était au service de son maître, c'est-à-dire de son corps, de son héritage mental et physique et de ses acquis plus ou moins honnêtes. Il va mourir, il va perdre tout ça. Et il ne pourra plus satisfaire sa personnalité puisqu'il est renvoyé, c'est-à-dire puisqu'il est mort. Maintenant, vous allez voir que ça se tient, mais il va falloir réfléchir spirituellement. Sorti de sa fonction qui consistait à vivre dans un corps de chair, qui était son maître et qui l'a mal servi. Il a fait du mal à son être même inférieur et à son être supérieur. Il a fait mal à tout ça. Vous voyez, c'est une autre approche que ce qu'on entend couramment. C'est vraiment une autre approche. Donc, je résume pour que ça soit bien clair. Toi, tu es l'économe infidèle. Ton maître, c'est ta nature inférieure. Si tu as travaillé avec ta nature inférieure, tu as mal agi. Et un jour ou l'autre, tu es renvoyé, c'est-à-dire tu meurs, tu vas mourir. Tu vas quitter ton maître, c'est-à-dire ta nature inférieure, ta personnalité que tu as toujours mis en avant, c'est ce côté inférieur qui est mauvais, qui triche, qui fait des choses qui ne sont pas bien. Je sais que c'est beaucoup moins religieux que ce que tu as l'habitude d'entendre quand tu entends prêcher là-dessus. Mais écoute bien, parce que c'est très important. Si tu écoutes attentivement, tu vas comprendre. Ok, tu es renvoyé, c'est-à-dire tu es mort. Tu ne peux donc plus travailler la terre. Et tu n'as plus de force pour le faire, puisque tu es mort. Tu n'as plus de corps pour le faire. Alors, étant mort, tu es tenté de mendier pour te payer les plaisirs que tu avais avant quand tu étais dans ton corps. Et ça, c'est une souffrance terrible. Parce que quand on n'a plus de corps, mais qu'on est désincarné, on a toujours nos envies, nos mesquineries, nos machins, nos trucs, et alors on est tenté de mendier pour pouvoir satisfaire tout ça. C'est-à-dire ceux qui ont été infidèles dans leur vie terrestre essayent de hanter les vivants ou les endroits où ils vivaient. Ça ne se produisait pas avant Jésus. Il y a très peu de temps que ça se produit, ça. Ça se produit maintenant, de nos jours, parce que nous vivons à l'époque dont parle Apocalypse 6, 7, 8, c'est-à-dire les morts se baladent sur terre. On est sous le quatrième sceau. Ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Les portes du séjour des morts ont été ouvertes, les morts sont sur la terre, ils se baladent, ils infestent le monde. Il n'y a pas que les démons, mais aussi des morts qui hantent les endroits, les lieux. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des choses comme ça, mais moins que maintenant. La Bible nous dit que si quelqu'un a en lui un esprit de mort, il faut le tuer, il faut tuer cette personne. Un esprit de mort. C'est ce qu'on appelle les nécromanciens, les gens qui invoquent les morts. Il y a les morts qui parlent. Les gens disent, non, ce n'est pas les morts qui parlent, c'est des ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est des gens qui n'y connaissent rien, ils ont fait des études bibliques à Pétauchnock-les-Oies, où ils ont lu des histoires. Lisez votre Bible, vous verrez qu'il y a des gens qui ont en eux des esprits de mort. Et ça existe, et c'est comme ça. Il y a des morts qui sont là, qui se baladent, de plus en plus, depuis que le quatrième sceau est ouvert. Vous trouvez ça dans Apocalypse 6, 7, 8 pour ceux qui veulent la référence au sujet de ce que nous vivons maintenant. Bon, je sais que les chrétiens évangéliques ne croient pas ça, mais tant pis pour eux. Nous savons que c'est vrai. Dieu nous l'a révélé au travers de son prophète et on a compris ces choses et voilà, maintenant c'est révélé. Alors, quand on regarde le monde actuel, on voit bien comment les morts et le séjour des morts agissent. Les gens disent, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on vit, mais c'est épouvantable, etc. etc. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Alors, que fait cet économe infidèle sur terre? Sur terre, il a été infidèle à son corps mortel, à son maître inférieur, il a été infidèle sur toute la ligne, et étant mort, il décide de continuer à être infidèle à son corps spirituel, c'est-à-dire tel qu'il est. Il continue à être infidèle, il a toujours les mêmes désirs sans pouvoir les satisfaire pleinement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il réduit la dette des débiteurs de son maître. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au lieu de donner pleine satisfaction à son corps spirituel, il établit un régime de restriction, ses énergies affectives, ses énergies mentales. Il les satisfait autrement. Il réduit les dettes de ses débiteurs. Et secrètement, il les donne aux amis des tabernacles éternels. Dans cette version, c'est marqué aux habitations éternelles. On va voir ça bibliquement, parce que ce que je vous annonce, ce n'est pas une fable, j'explique bibliquement. Ce mort-là, il arrive dans le séjour des morts, du mauvais côté du séjour des morts, puisqu'il a été infidèle. D'accord ? Il était jugé quant à la chair et il était placé du côté, du mauvais côté du séjour des morts. Et là, il entend l'évangile prêché. Parce que l'évangile est aussi annoncé aux morts. Selon 1 Pierre 4, 6. Que les gens le veuillent ou pas, je m'en fiche complètement. C'est écrit dans la Bible que l'évangile est aussi prêché aux morts. Donc voilà, pour moi ça me suffit. Afin qu'ils puissent vivre selon Dieu par l'Esprit. C'est écrit oui ou non? Oui, donc moi j'y crois. Si eux ils ne veulent pas y croire et rester dans leur truc évangélique, ben c'est très bien, ils seront sauvés quand même. Mais bon, moi je veux aller de l'avant et participer au rétablissement en comprenant les choses et en accordant ma vie avec ces choses. Alors il est là dans le séjour des morts et il entend l'évangile. Il se repent. Il se repent. Il comprend aussi que sa repentance ne suffit pas. Qu'il doit payer quelque chose. On va lire dans Matthieu, chapitre 5, verset 26, et vous lirez tout le contexte pour voir si je vous raconte des histoires ou si c'est vrai. 5, 26. Jésus dit, je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Ou dans des versions plus anciennes, jusqu'au dernier cadran. Tu ne sortiras pas de la prison. Tu ne sortiras pas de là. Et là, il est en train de parler du jugement. Une fois que quelqu'un est jugé, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé. Ah, donc il comprend qu'il doit faire quelque chose. Vous voyez que ces choses n'ont pas encore été révélées chez les évangéliques, mais elles existent. En fait, ils ne savent pas trop quoi faire avec ces textes. En fait, cet esprit en prison, dans le mauvais côté du séjour des morts, il entend l'évangile, il se repent, et il agit en conséquence. Il paye jusqu'au dernier centime. En faisant cela, il fait un placement dans les tabernacles éternels. Ça, il aurait dû le faire de son vivant, mais il ne l'a pas fait. Il a vilipendé les biens de son maître et il n'a pas usé de sa personnalité honnêtement. Il a été renvoyé, il est mort et là, il réalise sa faute. En entendant l'évangile qui lui est annoncé, et il décide de payer ce qu'il doit pour s'assurer un avenir. Ce qu'il veut, c'est s'assurer un avenir. Il amasse donc un capital qu'il dépose dans la banque céleste, afin d'être accueilli dans les tabernacles éternels. C'est écrit là, hein? Attention, c'est écrit. Dites-moi ce que ça veut dire, si ça ne veut pas dire ça. Et comme cela, il est certain d'être bien reçu, bien accueilli dans les tabernacles éternels, puisqu'il aura amassé dans le ciel. Mais c'est maintenant que nous devrions le faire. Maintenant que nous sommes sur la terre, nous devons amasser dans le ciel un trésor. Lui, il était infidèle, mais ce n'est pas une raison pour nous d'être infidèles. Nous ne devons pas être infidèles. Nous devons être fidèles à Dieu, nous devons faire ce qui est à faire. Et quand nous devons nous repentir, nous devons aussi réparer, restaurer. Vous comprenez ? Et nous amasser des trésors dans le ciel. Alors je résume, il a donc été infidèle à sa personnalité, dont il a été séparé par renvoi, il est mort, et il se crée des amis grâce aux richesses qu'il a injustement lui-même gérées. Et voilà pourquoi l'économe a été loué par son maître. Ah bon ? Sa personnalité inférieure le loue ? On pourrait se dire, ça c'est bizarre. Eh bien, ce n'est pas sa personnalité inférieure qui le loue. Parce que sa personnalité inférieure, elle a été lésée, elle a été volée, il a mal agi, il a été malhonnête. Sa nature inférieure ne peut pas le louer. Alors, c'est qui le loue ? Qui est le maître qui le loue ? C'est Jésus ? Non. C'est son autre nature. sa nature supérieure, son individualité, si vous voulez. J'ai pris le mot personnalité pour la nature inférieure et disons que la nature supérieure, on va l'appeler l'individualité. Et son individualité, son maître, celui qui est son maître supérieur, de sa nature supérieure, lui dit, tu as agi avec sagesse. C'est un peu tard, mais bon, c'est bien. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il a fait ça une fois qu'il est mort, une fois qu'il était renvoyé. Vous voyez, vous comprenez? C'était tard, mais c'était mieux de le faire. Ceux qui se repentent dans le séjour des morts, c'est un peu tard, mais c'est mieux que rien. Vous voyez, si vous prenez cette parabole en pensant que le maître c'est Jésus, ça colle pas. Ça colle pas. Parce que Jésus ne peut pas louer cela, c'est de la malhonnêteté. Certains disent, oui, mais Jésus c'est un juif, c'est pour ça, les juifs sont pas trop honnêtes, et tout ça, c'est de l'antisémitisme, c'est du racisme, on ne peut pas dire une chose pareille. Si on dit ça des juifs, on peut dire aussi ça des Auvergnats, on peut dire ça aussi des Écossais, on peut dire ça aussi des Suisses. Non, ça ne va pas, il ne faut pas dire ces choses-là. Ce n'est pas vrai. Et Jésus n'était pas quelqu'un de malhonnête, et ce n'est pas Jésus qui peut le louer. C'est la nature supérieure de cette personne qui le loue en lui disant, bon, ben, t'as bien agi, c'est-à-dire que tu as essayé de te racheter, tu t'es préparé un trésor dans le ciel. C'est bien. Par contre, si on comprend que le maître est, premièrement, un, sa partie inférieure, et deux, sa partie supérieure, si on comprend ça, il y a deux maîtres, mais dans une personne. C'est une personne qui a deux maîtres. Et voilà le mystère qui est enfin révélé. Pourtant, Jésus le dit, c'est dans le texte, mais on ne fait même pas attention. On ne fait pas attention parce qu'on lit trop rapidement. Qui se rend compte que Jésus dit ça? Comment Jésus termine sa parabole? Bon, on va le lire. Alors, c'est dans Luc 16. Alors, je reprends Luc 16 et verset 13. Écoutez bien. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Si tu t'attaches à ton être inférieur, tu méprises ton être supérieur. Si tu t'attaches à ton esprit supérieur, tu méprises ton côté inférieur. Tu n'as rien à mépriser en toi. Simplement, ce que tu dois faire, c'est trouver l'équilibre selon la bonne parole de Dieu. Tu vis avec les deux. Pour être une personne, tu dois avoir les deux, l'inférieur et le supérieur, mais tu dois maîtriser la partie inférieure, la partie sombre. C'est pigé? Et puis Jésus continue en disant, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ah, c'est là que les évangéliques se plantent, parce qu'ils pensent que les deux maîtres, c'est l'argent ou Dieu. Mais ce n'est pas ça. Aucun serviteur, aucun économe, aucun intendant ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Et il termine en disant, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, ou l'argent. Les superficiels, ils s'arrêtent là. Les deux maîtres, pour eux, c'est Dieu et l'argent. Non. Moi, je dis non. Mammon est le dieu des possessions terrestres. Il est le dieu qui inspire votre partie inférieure, vos désirs charnels et tout ça, toutes ces choses-là. Tous les côtés mauvais, c'est des démons qui inspirent ça, et surtout l'argent. Et il s'oppose à Dieu qui est le dieu des richesses spirituelles. Mammon est un maître et Dieu en est un autre. Dieu est le Dieu de notre être supérieur. Il est le Dieu de tout, si on veut. Mais celui qui met en marche, celui qui est malhonnête, comme l'économe là, eh bien, son Dieu, c'est pas Dieu, hein, c'est Mammon. C'est le mauvais, c'est le démon. L'homme, vous et moi, nous ne pouvons pas servir à la fois notre nature supérieure, c'est-à-dire Dieu, et notre nature inférieure, c'est-à-dire le côté obscur, où l'argent est roi. On ne peut pas. Nous devons choisir qui nous voulons servir, à qui nous voulons être fidèles. Or, il n'y a qu'une infidélité qui est permise. Une seule est permise. C'est celle à l'égard de notre nature inférieure qui est sous contrôle de Mammon. Là, on peut être infidèle à cette partie inférieure, c'est-à-dire lui dire non, je ne fais pas ce que tu me commandes. Vous voyez? Alors, une question peut survenir. Pourquoi l'économe infidèle ne remet au débiteur qu'une partie de leur dette? C'est simple. Une fois que la personne se repent, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, quand on se repent sur la terre ou quand on se repent dans le séjour des morts, c'est la même chose. La dette est remise par Jésus. C'est Jésus qui a payé la dette. Mais il est normal que nous fassions ce que nous pouvons pour réparer, pour payer notre part. Supposons que vous avez volé quelqu'un, vous vous repentez, ça ne suffit pas, il faut aller rendre l'argent. D'accord? Et si tu ne payes pas ta part ici-bas, eh bien, tu la payeras de l'autre côté. De toute façon, tu la payeras. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Alors, tous les points que votre nature inférieure marque ici-bas et dont vous pouvez être plus ou moins fier de temps en temps, eh bien, sachez une chose, c'est que vous allez devoir payer. Si ce n'est pas ici, vous payerez après. Mais vous payerez. En tout cas, au moins une partie, parce que c'est complètement anormal de dire « pardon » et puis de ne pas changer. « Pardon, pardonne-moi » Ben oui, c'est facile. Change. Sacrifie quelque chose. Arrange-toi avec la personne. Fais-lui plaisir. Tu dois 100, allez, tu payes 80, ça va, on s'arrange. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Fais-toi des amis avec les richesses injustes. C'est pas tout à fait juste. Mais c'est mieux que de dire « pardon », puis c'est tout. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses ici-bas, qui te confiera les vraies richesses? Personne, et surtout pas Dieu. Si tu ne payes pas de l'autre côté jusqu'au dernier centime, selon Matthieu 5, 26, tu perdras ta récompense. Parce qu'on est sauvés. Mais il y a en plus des récompenses. Des récompenses, c'est pour ceux qui payent, pour ceux qui agissent d'une façon meilleure que les autres. Vous comprenez ça? Hé, hey, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous pensez que Osborne n'aura pas une meilleure récompense que moi? Mais bien sûr qu'il aura une meilleure récompense que moi, c'est normal, il a fait beaucoup plus que moi. Ça ne serait pas juste qu'il ait la même récompense que moi. Vous voyez? Et si tu ne payes pas maintenant, si tu ne payes pas ici, si tu ne donnes pas ce qu'il faut, tu perdras ta récompense, tu seras sauvé, oui, mais bon, tu risques d'être sauvé comme au travers du feu. Tu n'auras pas un héritage de haut niveau. Tu ne brilleras pas comme le soleil, tu brilleras peut-être comme la lune, ou tu brilleras peut-être comme les étoiles. Vous vous rappelez les 3 degrés de gloire que je vous ai enseignés? C'est l'apôtre Paul qui enseigne ça dans 1 Corinthiens 15, 41. Il y a 3 niveaux de gloire. Tu veux briller comment quand tu seras de l'autre côté? Comme le soleil, comme la lune ou comme les étoiles? Tu choisis maintenant. Tu pourras choisir aussi après. Mais ce n'est pas très glorieux. Il vaut mieux choisir maintenant. Surtout que maintenant, l'évangile t'a été prêché, tu le connais. Donc, c'est maintenant que tu fais tes choix. Vous voyez, Dieu veut que vous vous épanouissiez avec vos deux natures, l'inférieure et la supérieure, parce qu'elles sont complémentaires. Tu n'es pas qu'un pur esprit. Tu n'es pas qu'un corps non plus, avec ses désirs, avec ses besoins, ses pulsions, tu n'es pas qu'un corps, mais tu n'es pas qu'un esprit non plus. Tu es esprit et matière, et il faut que tu vives avec les deux. C'est ça le vrai enseignement de Jésus qu'on trouve là-dedans. Comment utiliser la nature inférieure pour nourrir la nature supérieure afin de ne servir qu'elle? Il faut que ta nature inférieure devienne serviteur de ta nature supérieure. C'est-à-dire, quand elle doit fermer sa gueule, ta nature supérieure doit pouvoir prendre le dessus et lui dire « tais-toi ». Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Il faut que vous sachiez nourrir votre nature supérieure en dominant votre nature inférieure afin de ne servir que votre nature supérieure, ce qui est beau en vous, ce qui est noble, ce qui est digne de louange. Alors je remercie Dieu de nous avoir ouvert l'intelligence ce soir pour comprendre ces choses. parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons tels qu'il est. Il n'acceptera pas une épouse inférieure. Amen. Alors, on va se sanctifier encore et encore et encore. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus, je sais que ça va, que ce message que je donne ce soir, ça va surprendre plus d'un chrétien qui m'écoute sur Internet. Ici, dans la communauté, je sais que les frères et sœurs ont l'habitude de m'entendre dire des choses, des voix un peu étranges. Mais je te prie en particulier pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment et qui m'écoutent sur Internet. Seigneur, donne-leur de réfléchir. Qu'ils te prient, qu'ils te demandent, Seigneur Dieu, Père éternel, au nom de Jésus, est-ce que c'est vrai ce qu'il nous dit là, Michel? Priez, le Saint-Esprit vous révélera que c'est vrai. Priez sincèrement de tout votre cœur et vous montrera que c'est vrai. Ce n'est pas la seule façon de comprendre cette parabole. C'est vrai, mais c'est une très bonne façon de la comprendre aussi. Un petit peu différente de ce qu'on entend d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va?